56 minutes. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Je ne sais pas si on est rendu où avec le sondage dans le Journal de Québec concernant le Festival d'été de Québec, Pascal. As-tu été voté pour Céline Dion?
Non, j'ai pas eu le temps encore de voter pour... pas Céline Dion.
C'est qui tu voudrais à Québec, prochain festival?
Chris Stapleton, Eminem.
Chris Stapleton. Mais tu connais une toune de Chris Stapleton?
Ben non, mais là...
Tennessee
même...
Whiskey.
Ouais, mais même à As Bad As... Je sais pas trop, dans la nouvelle... dans le nouveau film de F1, là, il a sorti des nouvelles tunes. Chris Stapleton, c'est pas juste ça, là. Hey, c'est bon, là. Il y a plein de chansons d'amour, que tu sois en amour ou pas, là. C'est, ça reste que... C'est « You should probably leave »,« Think I'm in love with you »,« Starting over »,« Broken Hollows ». C'est bon, là.
Quand chance tu les as sur ta feuille?
Ben, parce que je les connais pas par cœur. Mais... Hey, on connaît plus ça depuis qu'on suit pas un disque, là.
Entre Coldplay puis Chris Stapleton,
Chris Stapleton. Puis je te dis, je suis pas une cowgirl.
Ah ouais. Parce que Coldplay, j'ai l'impression que ce serait complètement déjanté à Québec. Là. Il y a énormément de
des gens
de
qui voyagent pour aller les voir.
Exact. On me dit Drake.
Ouais, mais je pense qu'il est un petit peu moins apprécié. On me dit, on me glisse à l'oreille dans les derniers mois, moins d'appréciation pour Drake.
Adèle, tout le monde s'en fout. Angèle, tout le monde s'en fout.
Angèle, ce serait plein pareil.
Ah ouais.
Moi, je pense que ce serait un genre de Big Flo et Oli 2, là.
Fait que moi, je vais revoter pour Bruce Springsteen.
Mais oui, revote. Allez, vas-y, Yannick. Yannick, pardon, on va voter pour lui.
En ouais. Train de scraper toute l'algorithme.
Puis en passant, t'avais voté pour Eminem.
Ah, c'est vrai, j'avais voté pour Eminem tantôt. Tu vois, Eminem est encore à 9 %.
OK.
Sinon, dans les plus élevés... C'est Eminem qui est le plus élevé à date, là.
C'est sûr, c'est celui qu'on réclame depuis toujours. Ils n'ont jamais enlevé le nom de la liste, mais je pense qu'il coûte cher puis il va pas partout.
OK. Tu vois, j'ai Bruce Springsteen à 5, puis j'ai Angèle à 9. Ouais. Angèle puis Eminem sont à la même affaire.
Je te dis, Angèle, ça va remplir au complet les plaines.
Mais c'est qui, Angèle?
C'est la chanteuse française, elle est belle, elle est blonde, là.
Aucune idée.
Ça te dit rien?
Non.
Mais si tu vas sur Spotify, d'après moi, tu vas entendre une couple de chansons, puis ça va te dire quelque chose.
Okidou, on jase avec la Fédération canadienne des contribuables et son directeur Québec. Son nom, c'est Nicolas Gagnon. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour à vous, ça va bien?
Oui, ça va très bien, M. Gagnon. Que faites-vous pendant la saison estivale à la Fédération canadienne des contribuables?
On travaille. Ben, ça va en surprendre plus d'un, mais oui, on continue à faire comme d'habitude. Donc, que ce soit l'été ou l'hiver, ça ne change pas grand-chose pour nous. Quoique, il y a un petit peu moins d'activité sur les collines parlementaires à Québec et à Ottawa, comme on le sait. Là, mais pour le reste, on profite quand même un peu de la chaleur, du bon temps aussi. On fait des barbecues les fins de semaine. Donc, on fait pas juste travailler, mais on en profite pareil.
J'ai pensé à toi la semaine dernière. Je parlais avec le maire de la ville de Québec, Bruno... Bruno quoi déjà?
Marchand.
Bruno Marchand. Et je parlais tantôt avec la présidente-directrice générale de la Chambre d'industrie du Grand Lévis, Mme Marie-Josée Morancy. Puis on parlait d'une surtaxe là, qu'on va mettre à Lévis pour les promoteurs. On parle d'un 5 400 $ supplémentaires par porte de taxes parce que Lévis peine avec son usine de traitement des eaux et ses infrastructures. Puis quand je parlais avec le maire la semaine dernière, il disait, tu sais, Yann, pour ce qui est des chats, c'est juste 10 $. Pour ce qui est de la taxe sur l'immatriculation qu'on vous demande en plus, c'est juste 60 $. Puis avec Pascal, on avait une discussion, les trois ensemble, puis... Dans leur façon de voir les choses, ces maires-là, ouais, mais c'est juste des petits montants qu'on demande constamment. Mm-hmm. Puis vous êtes chanceux à Québec, vous êtes chanceux à Lévis, vous avez une bonification au niveau des services, mais la multiplication des services qui sert à un faible pourcentage des citoyens vont faire en sorte qu'à un moment donné, ben la classe moyenne va diminuer, puis les gens qui étaient dans la classe moyenne vont se ramasser dans la classe pauvre, puis les riches, ben ils vont rester riches, mais la classe moyenne va complètement niveler par le bas, puis on n'aura plus une maudite scène supplémentaire. Là.
Ben oui, t'as tout à fait raison. Puis ce qui est très dérangeant aussi, qu'est-ce que tu viens de mentionner par rapport à la fameuse surtaxe pour chaque nouvelle porte dans le coin de Lévis, je veux dire, s'il y a bien une chose qui nuit beaucoup à la classe moyenne présentement, aux familles, c'est la difficulté à se trouver un logement ou la difficulté à pouvoir s'acheter une maison. Donc si on est pour inventer une nouvelle taxe pour pénaliser les promoteurs, puis dans le fond, ralentir des nouvelles constructions, ça va clairement pas aller en s'améliorant. On sait que le gros problème dans les villes présentement, c'est le manque d'offres de logements. Et ça fait en sorte que ben des prix sont plus élevés. Et qu'est-ce qui bouffe la plus grande partie des revenus présentement d'un grand nombre de familles? Ben c'est le loyer ou l'hypothèque. Donc, je vois pas en quoi c'est très productif de leur côté. Puis d'un autre bord, ben tu l'as mentionné, on accumule des taxes à droite et à gauche, que ce soit la taxe sur les chats ou que ce soit la taxe sur l'immatriculation. ou les taxes municipales qui augmentent, ou sinon on a toute une panoplie de taxes, ou sinon de cotisations et de charges sociales qui augmentent. Puis à la fin de la journée, à part la dernière petite baisse d'impôts qu'on a eue au fédéral de la part de Mark Carney, là, il y a à peu près 2 semaines, on n'a pas eu beaucoup d'autres répits de la part des autres paliers gouvernementaux. Donc on peut effectivement se soucier de plus en plus du fait que le poids fiscal augmente, puis on n'a pas beaucoup de politiciens qui font grand chose pour y remédier. Et par-dessus le marché, on empire la situation au niveau de l'immobilier. C'est contre-productif, mais ça semble être une réalité qui est aussi vraie à Québec qu'à Montréal qu'on compare. Là.
On parle de la partielle d'Arthabasca. Toi, tu y vois le côté monétaire. Il n'y a rien de pire qu'une élection partielle. Puis quand un politicien quitte son mandat pendant son 4 ans de mandat, il n'y a rien qui me fait le plus suer. Puis bien souvent, à moins que ce soit pour des raisons comme une maladie, là, moi, je leur imposerais la facture ou encore la facture à leur propre parti. C'est pas normal qu'une élection partielle coûte entre 500 000 puis 650 000 $, Nick. Puis qu'on accepte ça depuis des années et des années. Si le politicien se lance en politique et dit « Moi, je veux vous représenter pendant 4 ans », ben, s'il n'est pas capable de le faire, puis à un moment donné, ben, il y a une job qui arrive, elle est plus payante que l'autre, comme c'est arrivé à Joël Truc, là, dans Partiel, dans Jean Talon. Le parti devrait écoper ou le parti devrait payer une partie du montant que ça va coûter l'élection partielle, ou peut-être qu'on pourrait tout simplement donner la fonction à la personne qui est arrivée deuxième dans le comté. Est-ce qu'on pourrait faire ça?
Ça pourrait se vérifier. Le seul problème, par exemple, c'est que est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aimeraient ça devenir député pour une seule année, comme dans le cas, par exemple, d'Arthabasca l'érable. Est-ce que quelqu'un voudrait je pense que c'est les conservateurs qui est arrivé deuxième dans ce comté-là en 2022. On vous corrigera au passage. J'ai pas vu les chiffres. Mais est-ce que quelqu'un voudrait être, à part les conservateurs, est-ce que quelqu'un aimerait ça être juste député pour un an, ne serait-ce que pour remplacer quelqu'un qui a décidé de quitter son poste en cours de route pour essentiellement aller chercher un job ailleurs? Ben, c'est exactement ce qui est arrivé pour à peu près toutes les autres ou tous les députés qui ont quitté jusqu'à maintenant au Québec dans les dernières années, qu'on pense à Joël Boutin dans Jean Talon, qu'on pense à Pierre Fitzgibbon dans Terrebonne, ou finalement Éric Lefebvre là, dans Arthabasca l'érable. À chaque fois, c'est pas pour une question maladie, c'est effectivement pour une promotion, pour une meilleure job à un autre palier gouvernemental. Donc, je veux dire, c'est quand même insultant d'un pour les électeurs qui, eux autres, ils se retrouvent pendant plusieurs mois sans député jusqu'à ce que François Legault décide de déclencher une partielle, puis là, il la déclenche en plein été, ce qui est encore plus insultant parce que on le sait, l'été, c'est pas tout à fait le moment où est-ce que les gens sont plus friands de politique et encore moins pour se pointer aux urnes. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi le taux de participation. Mais il faut rappeler, la partielle dans Jean Talon puis dans Terrebonne ont coûté à peu près là, entre 650 et 725 000 $.
Oh, OK. Contribuable. Ça grimpe.
Non, donc, c'est quand. Oui, donc Terrebonne, c'est environ ce montant-là que ça a coûté la dernière fois. Donc, on peut s'imaginer que dans Arthabasca, l'érable, ça risque de coûter à peu près encore plus cher. Puis une des raisons aussi, ben, faut dire qu'il y a une partie des dépenses gouvernementales, des dépenses des partis politiques qui sont remboursées par le gouvernement. Donc, si jamais le PQ puis le Parti conservateur y vont all-in dans cette élection-ci, comme ça semble être le cas présentement, ben ça pourrait influencer la facture. Mais à la fin, t'as totalement raison. Ceux qui devraient assumer la facture d'une partielle, c'est les députés qui quittent et qui pour aucune raison valable, donc pas pour un cas de force majeure, mais plutôt pour une promotion. Et sinon, le parti politique, dans ce cas-ci, la CAQ devrait être tenu responsable. Ça les forcerait, en fait, à s'assurer à ce que leur député soit peut-être un peu plus loyal ou plus attaché à leur position, au lieu de la quitter en cours de route, comme ça a été trop souvent le cas jusqu'à maintenant.
Parce que, tu sais, je veux pas faire un cas de Joël Boutin, là, mais elle... Il n'y a pas eu enquête là-dessus, mais elle a probablement négocié son futur emploi pendant qu'elle était députée de Jean Talon, parce que le lundi suivant, elle travaillait pour cette entreprise-là après avoir démissionné. Fait qu'on comprend qu'elle n'a pas été engagée pendant la fin de semaine. Là. Ils n'ont pas donné ses conditions salariales pendant la fin de semaine pour qu'elle commence le lundi suivant. Tu sais, il y a quelque chose à faire qu'on peut mettre en place pour que ça coûte le moins cher possible aux contribuables. Puis demander une portion au parti qui était en place, ce serait une bonne chose. Puis peut-être que le candidat aussi pourrait avoir une pénalité, tu sais, je sais pas. Moi, je suis lié à une entreprise privée. Si je quitte, je peux te dire que j'ai une grosse pénalité, là. Parce que je me suis engagé pour 1 an, je me suis engagé pour 2 ans, je me suis engagé pour 3 ans. Pourquoi on fait pas ça avec nos politiciens qui sont parmi les mieux nantis de notre société, hein?
Ben absolument, oui, il devrait avoir une pénalité parce qu'il faut le rappeler, ils se sont votés une augmentation de salaire de 30 % en 2023 sous le couvert que bon, on travaille fort, on n'est pas souvent avec notre famille, tout ça. Puis finalement, une fois que le salaire est augmenté, ben on encaisse puis on quitte en cours de route. C'est sûr qu'il y a des packages de transition et tout ça, ils ont été carrément abolis, donc ils ont pas le droit à grand chose au Québec quand ils quittent en cours de route. Mais il n'en reste quand même que ça coûte aux contribuables un montant assez important pour les remplacer. Et là, en plus, le seul avantage de la partielle dans la sabbatical érable, c'est que ça va donner un peu le bout, ou du moins le momentum pour la prochaine année. Parce que c'est possiblement la dernière élection partielle qu'on va avoir avant les élections générales en octobre 2026. Donc, est-ce que ça va définir vraiment les orientations du gouvernement cet automne? C'est-à-dire, si la CAQ mange une claque, ça se peut que ça les influence, que ça les amène, ça les pousse à mettre de l'avant des politiques un peu plus intéressantes, que ce soit pour les contribuables ou pour les Québécois. Donc, il y a quand même un côté positif au niveau d'une partielle, mais il faut dire qu'au final, les contribuables en payent le coût. Exact. Les électeurs attendent parce qu'ils sont pas en deux chaises, parce que le député a quitté, puis là, ils attendent de voir ça va être qui le prochain. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est favorable, mais il y a quand même du positif qu'on peut tirer là-dedans.
Puis dans le dossier d'Arthabasca, là, tu sais, puis ça n'implique que moi, là, mais on avait une péripatéticienne, là. Tu sais, Éric Lefebvre, lui, a clairement mentionné qu'il voulait s'en aller au fédéral, puis il était sur le payroll des Québécois au provincial pendant sa campagne pour pouvoir être élu au fédéral. Finalement, de ce que je comprends, c'est qu'il a été élu, c'est ça?
Ben oui, exactement. Il a gagné son comté. Je me sais pas exactement le nom du comté comme tel, mais oui, il l'a remporté. Donc, il a démissionné tout juste avant le déclenchement des élections fédérales pour ensuite avoir cette nouvelle position. Puis, il faut dire que le salaire, il est effectivement plus intéressant à Ottawa qu'à Québec. Mais ça, c'est un détail qui devrait pas intéresser les contribuables plus que ça, à part le fait que c'est eux qui en paient la facture d'un bord comme de l'autre. Mais oui, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui s'est littéralement magasiné le job en cours de route.
Fait que lui, on l'a en tant que politicien dans Arthabasca pendant des années avec la coalition Avenir Québec, puis il a continué d'être sur le payroll de l'Assemblée nationale pour sa campagne au fédéral, puis en plus, les gens d'Arthabasca, ils n'ont pas compris, ils l'ont remis au pouvoir, puis on l'a envoyé à Ottawa avec un salaire qui est pas mal plus élevé. Le Québec est
là,
très
particulier. Puis les gens d'Arthabasca, puis du reste, ils payent pour la partielle dans leur compte en plus.
Ah, c'est toujours le fun de te parler, Nick, mais des fois, il y a des nouvelles comme ça qui nous arrivent que je trouve épouvantables.
Ouais.
Tu veux parler de Radio-Canada et des salaires que les gens s'octroient à Radio-Canada?
Oui, ben c'est parce qu'on a sorti des documents cette semaine qui ont fait un peu jaser, en fait, surtout sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est le fait que, finalement, le nombre de salariés qui fait plus de 100 000 $ chez Radio-Canada est beaucoup plus élevé, puis a carrément explosé au cours des dernières années. En fait, on a comparé avec les dernières demandes d'accès à l'information qu'on a obtenues et qui nous confirment qu'en fait, le nombre de salariés qui font plus de 100 000 en 2015-2016 est aux alentours d'environ 430 employés. Et là, on est aux alentours de 1840 employés qui font plus de 100 000, soit environ 26 % de la main-d'œuvre totale ou du nombre de travailleurs chez Radio-Canada en tout et partout. Ça veut dire qu'essentiellement, on est passé d'un moment où est-ce que la masse salariale ne serait-ce que des meilleurs salariés, ou du moins des salariés les mieux rémunérés chez Radio-Can, est passé de 60 millions pour les 400 quelques employés en 2015-2016 à environ 240 millions donc en 2024-2025. Donc en 10 ans, on a plus qu'augmenté de 300 % le nombre de salariés dans les 6 chiffres chez Radio-Can. Et ça, malgré le fait qu'il faut dire qu'en contrepartie, c'est pas comme si c'était la société d'État, la plus performante. On le voit avec les codes d'écoute, notamment chez CBC, où est-ce que ça frôle entre du 2 et du 5 % dans le prime time, alors que les médias anglophones, généralement, comme CTV, ça va chercher du 12 à 15 %. Mais eux, ils n'ont pas accès à 1,4 milliard de subventions de l'argent des contribuables, comme c'est le cas pour Radio-Can. Donc, bref, au cours des dernières années, chez Radio-Can, on s'est distribué des salaires encore plus élevés, alors que c'est pas du tout la même réalité dans le reste des médias quand on le compare. Mais en plus, on a continué à distribuer des bonus, on a continué à distribuer des augmentations de salaire. Et en plus, ben, au lieu de faire un changement quelconque ou de réformer le média, comme ça aurait dû être le cas dans les dernières années, ben, Mark Carney, tout récemment, ben, on se souvient, durant la campagne électorale, a annoncé une aide de 150 millions de $ de plus au budget de Radio-Can. Donc, finalement, c'est quand même assez drôle parce que d'une part, on nous dit qu'il y a un ménage qui s'en vient apparemment dans la fonction fonds publics fédéraux puis dans les finances fédérales pour essayer de ramener une forme d'équilibre puis de couper dans le gras. Mais de l'autre côté, on continue d'augmenter le nombre de fonctionnaires qui gagnent dans les six chiffres et on n'est pas capable non plus de vraiment divulguer cette information-là de manière, constante, comme c'est le cas dans la plupart des provinces. Il faut rappeler que dans la quasi-totalité des provinces canadiennes, il y a ce qu'on appelle une « sunshine list », qui permettent justement de savoir combien il y a de fonctionnaires qui font plus de 100 000, donc à la solde des contribuables dans chacune de ces juridictions-là. Mais au fédéral, puis au Québec, on n'a malheureusement pas cette sunshine list-là. Okay. Donc, la seule manière de l'avoir l'information, c'est avec des demandes d'accès à l'information.
Donc, avec la Fédération canadienne des contribuables, vous avez regardé ça et vous avez découvert que depuis 2015, il y a une augmentation salariale de 318 et ça s'est accéléré aussi dans la dernière année avec une augmentation de 17.
C'est exact.
OK. Est-ce qu'on sait ces postes-là, c'est quoi? C'est-tu des postes d'administration ici, que ce soit à Québec ou à Montréal, ou c'est des postes qui sont un peu plus à l'international? Parce que je comprends qu'un journaliste qui est à l'international, qui est dans une zone peut-être de guerre, exemple, peut gagner plus cher que Tiper Roger qui travaille à Québec et sa vie n'est pas en danger.
Est-ce qu'on appliquer une nuance, Yannick Marceau?
Est-ce qu'on sait où les salaires sont envoyés? Parce que si c'est juste l'administration, ce que je pense, là, je veux dire, c'est ignoble. Puis en plus, à ça, il faut que tu ajoutes les fonds de pension.
Non, mais c'est indéniable qu'un certain nombre de ces personnes-là qui font plus de 100 000, qui sont fort possédants, effectivement, des journalistes qui ont un certain nombre d'années d'expérience ou sinon qui ont une expertise prouvée et qui travaillent en plus à l'international. Ça, c'est clair que ça doit rentrer là-dedans. Mais dans l'ensemble, quand on regarde le tout, là, c'est quand même pas loin de 26% des effectifs chez Radio-Can qui font plus de 6 chiffres et ça touche essentiellement des cadres, des gestionnaires et du personnel administratif. Quand on regarde surtout là, les principaux dirigeants, je veux dire Catherine Tate, ou du moins l'ancienne dirigeante de Radio-Can, parce qu'elle est supposée être sur le point de quitter, là, ou si ce n'est pas déjà fait. Bref, elle, son salaire pouvait monter jusqu'à 600 000 $. Ceci étant dit, Radio-Can a toujours été avare de mots quand c'était temps de clarifier c'était quoi le pourcentage de son salaire qui était des bonus versus la rémunération de base. Puis c'est une des raisons pour laquelle la Fédération canadienne des contribuables est en cours contre Radio-Canada présentement pour les forcer à divulguer cette information-là, ne serait-ce que sous couvert de la loi sur l'accès à l'information. Donc, il y a encore beaucoup de détails comme ça que malheureusement, on n'a pas parce que Radio-Canada n'est pas très transparente à l'instant d'un paquet d'autres sociétés d'État fédéral.
Ça, c'est particulier parce que moi, je comprends la transparence qui doit avoir lieu. Puis la question d'Yannick était super pertinente. Ça dépend de ce que tu fais, mais officiellement, il faudrait que ce soit aussi limpide que l'échelle salariale qu'on peut trouver sur Internet chez Radio-Canada. Et c'est un petit peu ironique. Et je vais le dire, mais on est les premiers en termes de médias à toujours chialer dans les dernières années quand on fait des demandes d'accès à l'information au gouvernement, quand c'est caviardé, là, puis que ça devient de plus en plus caviardé, que finalement, tu as une feuille de papier, que c'est juste du noir dessus, puis tu n'as aucune information. On chiale, et ça brime le travail du chien de garde de l'actualité, du chien de garde qu'on est supposé être en tant que média. Là, je nous mets là-dedans, mais Yannick et moi, on fait pas d'enquête, mais malgré tout, c'est comme une grosse recette, là. Tout le monde travaille ensemble, on est un peu collègues sans l'être. Ça, c'est un peu ironique.
Oui, ça l'est totalement. Puis en plus, il faut le dire, c'est quand même un média qui reçoit 1,4 milliard de dollars en financement public. Donc, ça serait quand même bien que les contribuables aient accès à l'information. Ne serait-ce qu'un peu plus de transparence par rapport à comment l'argent est utilisé, c'est quoi les échelles salariales, c'est quoi les salaires précisément, parce qu'on a des échelles, mais on a vraiment un très grand nombre de détails qui est absent de ça. Et en plus, ben, on essaie de camoufler les fameux bonus. Faut rappeler là qu'au cours des dernières années, là, en 2015 et 2025, on s'est versé pas loin de 130 millions de dollars en bonus chez Radio-Can. Puis à chaque fois, on essaie de maquiller un peu qui et comment c'était distribué. Finalement, on apprenait que les gestionnaires recevaient déjà, là, comme ça a été le cas l'année dernière, pas loin de 72 000 $ en bonus par gestionnaire. Puis là, après ça, on essaie de s'intéresser aux indices de performance, parce que si on n'est pas distribué des bonus, alors qu'on a des codes d'écoute qui sont plutôt abyssales, du moins du côté anglophone, on aimerait ça savoir c'est quoi les indices de performance qui justifient en fait ces bonus-là. Puis après, ben, les fameux indices de performance sont même pas mentionnés, ne sont pas clarifiés. Donc, il y a vraiment un grand manque de transparence au niveau de l'utilisation de l'argent des contribuables, puis comment est-ce qu'on la justifie, cette utilisation-là. Puis, ben, il faut le rappeler, c'est quand même un média qui est une société d'État, donc qui devrait être au service des contribuables et non qui fait un manque de transparence comme c'est le cas. Puis nous, on continue à pousser l'information puis à la divulguer tant aussi longtemps qu'on pourrait la trouver.
Clairement, les bonus à Radio-Canada, ils ne se donnent pas sur l'indice de bonheur des employés parce que pour jaser avec certains des employés de Radio-Canada, il y en a peu qui sont très contents de leur carrière là-bas, mais ils restent pour le salaire, ils restent pour le fonds de pension. Ça manque un peu de courage, mais des fois, quand t'es rendu à 50, 55 ans, tu te dis ouais, il me reste encore 3 ans à faire, 4 ans à faire, t'es aussi bien de rester là. Le problème étant que quand les jeunes rentrent dans la boîte, t'es un cancer pour eux autres. Hey, on parle de Mark Carney. Il y a un profil économique, Mark Carney, c'est le premier ministre du Canada, qui demande à ses ministres de limiter les dépenses. Est-ce que ça a été bien accueilli du côté de la Fédération canadienne des contribuables?
Oui, ben absolument. On est content que l'exercice soit encore fait. Le seul problème, c'est qu'on doute que ça va bien se faire. Parce que faut quand même dire que les dépenses gouvernementales, là, je veux dire, au coin des dernières années sous Justin Trudeau, on le savait, on avait vraiment perdu le contrôle. On est rendu avec un budget de dépenses qui frôle les 535 milliards de dollars par année, ce qui est quasiment le double que ce que avait Harper dans sa dernière année de gouvernance. Donc, faut le dire, on était rendu à un point assez important là, au niveau de cette prise de conscience, mais ça n'avait pas été fait sous Trudeau. Maintenant, Carney, là, il commence à donner des mots d'ordre, puis il a passé le mot, entre autres, à son ministre des Finances, François-Philippe Champagne, pour qu'un certain ménage soit fait. Et là, on parle de couper pas loin de 25 milliards de dollars en dépenses au niveau des dépenses de programme du gouvernement fédéral au courant des 4 prochaines années. Et pour être très honnête, oui, c'est un ménage qui est bien reçu parce qu'il est nécessaire. On va se dire, franchement, ça fait longtemps qu'on le demande. Mais d'un autre côté, 25 milliards, quand le même gouvernement promet d'augmenter la dette de pas loin de 225 milliards au courant des prochaines années, parce que c'est exactement ce qui est indiqué dans le cadre fiscal de Mark Carney avec lequel il a été élu. Et c'est ce même cadre fiscal pour lequel l'agence de crédit Fitch a envoyé des avertissements au Canada suite à l'élection de Carney pour dire, écoutez, si jamais vous allez de l'avant avec ce cadre fiscal et qu'il n'y a pas un ménage qui est fait en contrepartie dans les dépenses gouvernementales, ben vous allez devoir vous attendre à une décote. Une décote, ben c'est un peu comme ça a été le cas pour le Québec. Ça veut dire que le coût d'emprunt ou le coût de la dette du Canada va augmenter. Puis ça, ben c'est les contribuables qui le payons, nous-mêmes qui le payons avec nos impôts et nos taxes sur chaque année fiscale. Donc, à la fin, il y a un ménage qui est nécessaire, mais on a hâte de voir où est-ce que ça va se faire. Ceci étant dit, j'ai des contacts avec du monde qui travaille à Immigration Canada, chez Revenu Canada et à d'autres agences. Et on me confirme qu'à l'interne, il y a des courriels qui ont été vraiment envoyés at large par, les gestionnaires pour avertir qu'il allait avoir des coupures, qu'il allait fort possiblement toucher aussi le nombre de postes. Donc vraiment, si à l'extérieur, on a des difficultés à prendre au sérieux les promesses de coupures, il semble qu'à l'interne, on les prenne très au sérieux, même que l'agence, ou plutôt l'Alliance de la fonction publique du Canada, puis donc essentiellement le syndicat des fonctionnaires, est sorti en dénonçant cette tentative de faire de l'austérité. Donc là, c'est rendu vraiment la nuit et le jour entre la lune de miel qui existait d'une certaine manière entre la fonction publique fédérale et le gouvernement Trudeau. Et là, ben au niveau entre Carney et la fonction fédérale, c'est une autre paire de manches. On est rendu avec des syndicats qui ont peur d'une austérité quelconque. Mais la réalité, c'est que couper 25 milliards, qu'on augmente de 225 milliards les dépenses, c'est pas tout à fait là, la meilleure approche. Donc on a hâte de voir comment ça va se dérouler pour la suite des choses.
Incroyable de voir à quel point que quand les gens à l'intérieur du gouvernement parlent d'austérité, c'est comme si on parlait de Voldemort, tu sais, dans Harry Potter.
Hey, oui, mais c'est parce que ça a marqué avec Philippe Couillard.
Oui, je sais, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de mal à couper dans des services?
Il change de mot, quand il ne prend même plus austérité.
Mais quand on n'a plus l'argent nécessaire, oui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à couper dans des services qui ne servent pas nécessairement toute la population ou 90% de la population? Des fois, c'est tannant, ça revient un peu à ce qu'on jasait en début d'entrevue, Nick. T'sais, ils multiplient les services aux citoyens, mais il y a des services qu'ils inventent, qu'ils mettent en place, qui coûtent énormément cher, qui va à 2-3% des citoyens. C'est épouvantable. Puis je peux donner un exemple, là, les maudites pistes cyclables. Moi, je suis un gars pro-vélo, là, mais l'hiver à moins 20, je vois jamais personne sur ces maudites pistes cyclables-là. Puis c'est tannant de payer pour ça constamment. On pourrait peut-être justement couper à certains endroits. Quand tu vois que c'est pas achalandé dans certains secteurs, coupe ça. C'est juste, t'essaies juste de rationaliser les choses puis de faire le plus possible avec l'argent qu'on te donne. Mais bref, ça, c'est peut-être juste moi. Puis toi, Nick. Salut, man!
Écoute, salut, puis on se reparle très bientôt.
Salut, Nick. Bye-bye, mon ami. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables avec qui on aime bien jaser. Pour en savoir plus, c'est contribuable avec un S.ca. Contribuable avec un S.ca pour en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables. On fait une courte pause. Après la pause, c'est mon chum David Chabot qui s'amène.